plateformes numériques.
Le monde au féminin, le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous.
La Journée mondiale des droits des femmes, le 8 mars dernier, a été une occasion de plus pour faire le plaidoyer de l'autonomisation des femmes dans tous les domaines. Les Africaines, toujours en tête de la mobilisation, redoublent d'efforts au mois de mars dédié à la femme en particulier. De nombreuses associations féminines intègrent des programmes d'autonomisation dans leurs principales activités pour tenter d'éradiquer la violence économique que subissent des millions de filles et femmes de par le monde. Ainsi, tous les acteurs et promoteurs du développement économique s'accordent à dire que celui-ci ne peut avoir lieu sans passer par l'autonomisation des femmes, à commencer par celle des filles. J'ai demandé à une artiste musicienne, une femme des médias et une entrepreneur sociale de s'exprimer sur cette notion d'autonomisation en référence au thème 2025 qui est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Un détail important se remarque dans le texte, c'est le déterminant « toutes », T-O-U-T-E-S, qui est inscrit en lettres capitales pour ne laisser personne de côté.
Poumba Ba, membre du chapitre malien d'Aouline, African Women Leadership Network, en même temps host et productrice de l'émission citoyenne Moussouya. Quand on parle d'autonomisation de la femme, nous parlons d'économie. C'est un enjeu de développement. Il faudrait qu'on comprenne que la femme, particulièrement dans les pays comme les nôtres en Afrique, c'est le pilier de l'économie. Malheureusement, nous vivons encore dans un monde informel. Donc, tout l'État et toutes les parties prenantes ont beaucoup à gagner en mettant la femme au cœur de l'économie formelle. Qu'on puisse avoir accès au système financier, qu'on puisse avoir accès aux prises de décision, parce que toutes les études de par le monde ont démontré que quand la femme gagne, quand elle a accès aux ressources, ces ressources-là vont principalement dans la famille. Quand la famille gagne, quand la famille améliore ses revenus, c'est les enfants qui vont dans les meilleures écoles, c'est les enfants qui sont scolarisés, qui sont maintenus à l'école, qui mangent bien, qui ont une bonne santé. Donc, c'est les citoyens et citoyennes, les enfants d'un pays qui se développent bien, qui s'épanouissent bien quand les femmes gagnent bien. D'où la corrélation directe entre l'autonomisation économique de la femme et le développement de nos pays.
Je réponds au nom de Chantal Noni Donvile, femme activiste, fondatrice du Centre social Akara-Batique. Le Centre Akara-Batique est un centre social qui forme gratuitement les jeunes filles vulnérables, les filles qu'on a violées, celles qu'on veut donner au mariage forcé, celles qui ont perdu leurs parents et celles que leurs parents sont en vie mais qui n'ont pas les moyens. La formation est gratuite pour ces jeunes filles. Nous encadrons aussi des coopératives de femmes dans les milieux ruraux. On ne peut jamais parler des droits de la femme sans penser à l'autonomisation de la femme. Notre lutte de chaque jour est de voir nos sœurs être autonomes pour contribuer au développement de leur communauté. She worries for his mood.
Je suis Dahlia Dubon, chanteuse de Brooklyn qui habite en France avec mon projet musical The Blue Dahlia qui mélange la folk et les grooves internationales en français et en anglais. Pour la femme, l'autonomisation des femmes, tout ce que je veux dire, c'est que même dans les pays où la femme a plus de droits, qu'on dise l'égalité, qu'elle peut tout faire, entre guillemets, on reçoit toujours même aujourd'hui. Des blocages subtils et parfois moins subtils, où on doit penser d'abord à la famille avant notre travail, ou d'abord à notre physique avant notre cœur et notre cerveau. Alors je veux dire que la femme autonome, elle va rester belle en étant elle-même, en restant elle-même à travers les âges, quand elle est avec sa famille, quand elle est sur son travail. Et c'est cette femme qui sait ce qui est important pour elle et qui les met en avant, que ce soit sa famille ou sa profession ou elle-même. Elle n'écoute pas les autres. Elle reste fidèle à son cœur. Et c'est ça la beauté de la femme autonome.
Une sénatrice a été suspendue de ses fonctions pour 6 mois après s'être plainte de harcèlement sexuel par le président du Sénat. Dans une interview, Natacha Akpoti-Uduaghan a accusé Godswill Akpabio et a lancé une pétition contre lui. Elle a déclaré sur les réseaux sociaux que sa suspension balaye les principes de justice, d'impartialité et d'équité. La sénatrice a expliqué qu'Akpabio a bloqué plusieurs fois une motion qu'elle voulait faire avancer au Sénat, puis qu'il a lié son avancement à des faveurs sexuelles. La fondation féministe Adinia Arise a déclaré que cette suspension s'inscrit dans un effacement systématique des femmes en politique. Et elle a qualifié cette affaire de démonstration stupéfiante d'impunité patriarcale. Pour rappel, le Sénat nigérian ne compte que 4 femmes sur 109 sénateurs. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé les dirigeants qui sacrifient l'égalité femmes-hommes. Selon lui, 30 ans après la conférence de Beijing en 1995, les droits des femmes sont en état de siège, a déclaré Antonio Guterres lors de la session annuelle de la commission de l'ONU sur la condition de la femme. Le poison du patriarcat est de retour et il revient en force. Il freine brutalement l'action, détruit les progrès accomplis et prend des formes nouvelles et dangereuses, a-t-il estimé. Partout dans le monde, les adeptes de la misogynie gagnent en force, en confiance et en influence, a-t-il déploré. M. Guterres a défendu les mesures temporaires spéciales, telles que les quotas, les nominations ciblées et les objectifs de parité. Il a par ailleurs évoqué la menace de l'intelligence artificielle qui ouvre de nouvelles voies à la violence et aux abus, normalisant la misogynie et la vengeance en ligne, selon ses propres termes. Il a toutefois salué certains progrès pour l'accès à l'éducation ou la lutte contre la mortalité maternelle. La dissidente iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, libérée de prison en décembre 2024, s'est dite persuadée que les femmes renverseraient le système islamique en Iran. Les femmes se sont soulevées contre la République islamique de telle manière que le régime n'a plus le pouvoir de les réprimer, a estimé la militante dans une vidéo postée à l'occasion du 8 mars. Madame Mohammadi a ajouté, je cite, « Je suis convaincue que si la République islamique survit à une guerre, elle ne survivra pas face aux femmes. » Fin de citation. Lors d'une conférence à l'UNESCO, la veille de la Journée mondiale des droits des femmes, des militants et diplomates ont appelé la communauté internationale à ne pas légitimer le pouvoir des talibans en Afghanistan. La championne de taekwondo, Marzieh Hamidi, exilée en France, a déclaré que l'Afghanistan est le seul pays au monde où les femmes et les filles sont systématiquement effacées de la vie publique. Et malgré cela, tout le monde continue de traiter les talibans comme une autorité reconnue. Pour rappel, les Afghanes n'ont plus le droit d'étudier au-delà du primaire. Selon l'UNESCO, 1,5 million sont privés d'enseignement secondaire. Elles n'ont pas le droit de travailler dans plusieurs secteurs, d'aller dans les parcs, les salles de sport, les salons de beauté, ni de sortir de chez elles sans chaperon. Il leur est aussi interdit de chanter. Amida Aman, fondatrice de Radio Begum, dont la diffusion a été suspendue en février, a déclaré que le nombre de suicides de femmes augmente de manière dramatique. Le gouvernement italien a adopté un projet de loi faisant du fémicide un crime à part entière et non plus une simple variante de l'homicide. Dans le code pénal actuel, des circonstances aggravantes sont déjà prévues en cas d'homicide d'une femme, mais seulement si son auteur est marié ou a un lien de parenté avec la victime. Dans le nouveau projet de loi adopté en Conseil des ministres la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le fémicide est avéré dès que le crime est commis en tant qu'acte de discrimination ou de haine contre une personne en tant que femme. La première ministre Giorgia Meloni a salué un nouveau pas en avant pour contrecarrer la violence envers les femmes. Le projet de loi prévoit une meilleure formation des magistrats dans ce domaine. Selon le ministère de l'Intérieur, 113 fémicides ont été enregistrés en 2024, dont 99 dans le cadre familial ou affectif. 61 de ces femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. En France, selon une étude de la MIPROF, la Mission interministérielle pour la protection des femmes, le nombre de victimes de violences sexuelles dans les transports en commun a augmenté de 86% depuis 2016. En 2024, 3374 cas ont été enregistrés par la police et la gendarmerie. En région parisienne, 7 femmes sur 10 ont été victimes de ce type de violences dans les transports franciliens au cours de leur vie, selon une enquête de la Régie des transports parisien. Les femmes représentent 91% des victimes dans les transports français, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur. 36% de ces victimes sont mineures. La secrétaire générale de la MIPROF, Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports, a relevé, je cite, « qu'une femme ou une fille modifie ses horaires ou ses trajets par peur d'être agressée doit nous interroger sur la liberté d'accès de toutes les citoyennes aux services publics des transports ». Au Tchad, la recrudescence de violences faites aux femmes et aux filles fait débat. Même des agents de la police sont accusés d'être impliqués et sont sous la procédure de sanctions disciplinaires. Une situation qui a poussé la Ligue tchadienne des droits de la femme à mettre en ligne une pétition internationale pour lutter contre ce fléau avec des actions urgentes. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, nous en dit plus.
Une pétition est lancée suite à l'agression sexuelle présumée d'une jeune lycéenne dans un sous-poste de police du 7e arrondissement de la capitale. La Ligue tchadienne des droits de la femme entend recueillir 1000 signatures en 30 jours pour exiger des autorités de N'Djamena et autres acteurs humanitaires des actions fortes et urgentes pour garantir la sécurité des femmes.
Il y a presque 500 personnes qui ont signé cette pétition. Certes, on n'a pas atteint notre limite, mais dans les jours à venir, on continuera à pouvoir communiquer dessus pour pouvoir atteindre cette limite.
Epiphanie Diawara est la présidente de la Ligue tchadienne des droits de la femme. Répondant à la préoccupation de ces femmes, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, signe dans la foulée une ordonnance portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles. Tout en saluant la bonne volonté des autorités à travers la prise de cette ordonnance, elle soulève toutefois l'incohérence dans ce texte qui, selon elle, n'est pas de nature à éradiquer le phénomène, surtout en ce qui concerne l'avortement.
L'avortement est qualifié de violence. Cette formulation pose vraiment un sérieux dilemme, car on ignore la réalité des femmes et des filles qui sont confrontées à des grossesses non désirées, notamment à la suite de viols ou incestes. Elles sont condamnées à porter ces grossesses, donc si c'est le cas, cela représente une violence psychologique et physique qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Parce qu'actuellement, nous faisons des plaidoyers pour la ratification du protocole de Maputo qui permet d'autoriser l'avortement sécurisé. Et l'ordonnance qui semble faire l'amalgame entre l'avortement et la violence montre que le Tchad n'est pas encore prêt pour pouvoir ratifier ce protocole.
Pour le sociologue Félix Mbeté-Nambatna, la recrudescence des violences physiques et psychologiques faites aux femmes a un facteur commun lié à l'impunité.
La plupart des coupables arrivent à échapper dans les mailles des filières, des systèmes de services de sécurité. Et surtout ces derniers temps, des responsables eux-mêmes comme la police à N'Djamena, qui devait protéger les mineurs, c'est eux qui les violent. Je disais en tant que sociologue, il y a quelques années, le Tchad, c'était un peu l'âge de la malhonnêteté. Mais maintenant, nous sommes arrivés à l'âge de l'irresponsabilité. C'est ceux à qui l'État confie le pouvoir de protéger la population. C'est eux-mêmes qui en abusent ou sont complices. C'est ça le mot.
Madame le ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Lungu, exige la radiation des policiers présumés violeurs et estime que l'ordonnance prise par le chef de l'État peut contribuer à réduire ce phénomène qui gangrène la société.
Pour nous, les droits des femmes ne sont pas négociables. Et peu importe la personne qui exerce une violence, que ce soit physique, sexuelle, psychologique, contre les femmes, subira la rigueur de la loi. Le chef de l'État vient de signer l'ordonnance portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Tchad. Et vous allez aussi suivre d'ici là des grandes décisions qui montreront encore davantage la rigueur de la loi qui sera appliquée à l'encontre de tous les contrevenants.
La Ligue tchadienne des droits de la femme affirme qu'elle a enregistré au courant de ce mois de janvier plus d'une quinzaine de cas de féminicide et de viol au Tchad. André Koduma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Bénin, la 30e édition de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars dernier, a mis en exergue le bilan dans le renforcement des mécanismes de défense et de protection des droits des Béninoises. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, a tendu son micro à des femmes engagées qui se sont mobilisées autour du thème 2025, droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et les filles.
Si les pionnières continuent de tracer le chemin pour les filles, elles mesurent la portée de l'héritage qui leur sera légué. Berthe Gomina est étudiante.
Cette célébration permet de valoriser les femmes, de sensibiliser sur les droits et de rappeler l'importance de l'égalité des genres. C'est aussi un moyen de réflexion pour encourager des actions concrètes en faveur de l'autonomisation des femmes, car c'est vraiment très important.
Il faut dire que le gouvernement a mené des actions majeures en faveur de l'égalité des sexes, notamment à travers des réformes et initiatives significatives. Dr Valérie Dossou est la secrétaire générale du Parti Renaissance Nationale.
On peut dire qu'au Bénin, la promotion de la femme a connu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'actions de renforcement des capacités des femmes, donc de leur capital. Il y a eu des actions d'accès aux opportunités économiques. Il y a eu des actions de renforcement du cadre législatif protecteur. Quand je prends le cadre législatif et institutionnel de protection, ce cadre a été renforcé par la création de l'Institut national de la femme, également par la possibilité pour la CRIET de travailler sur des cas de violence basés sur le genre.
Malgré toutes ces mesures, le chemin pour une jouissance pleine de leurs droits en tant que femmes reste encore long. C'est pour cela que Samuel Atoron plaide pour davantage d'engagement afin de surmonter les obstacles auxquels font face les femmes.
Je m'adresserai à l'État en disant de continuer à renforcer les lois et à créer des mécanismes concrets pour l'application effective des droits de la femme, car c'est vraiment primordial. Aux organisations de la société civile, je dirais de mener des campagnes de sensibilisation plus ciblées pour toucher toutes les couches sociales et promouvoir un échange de mentalité durable.
Le 8 mars dernier, les activités ayant été organisées ont toutes convergé sur la nécessité de valoriser davantage les femmes pour booster le développement national. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Lorsque Téné Konaté s'est séparée de son mari en 2011, elle s'est battue pour gagner suffisamment d'argent et prendre en charge ses deux enfants. Elle a alors saisi une opportunité qui a transformé sa vie. Un emploi de chauffeur de camion benne de 72 tonnes à la mine d'or de Houndé au Burkina Faso. Aujourd'hui, Téné et une dizaine d'autres femmes ont brisé le plafond de verre dans une activité dominée par les hommes. Écoutons son histoire avec Michel Joseph.
Téné Konaté est fière de raconter son histoire à des parents incrédules. Cette mère célibataire de 42 ans est l'une des 111 femmes de la mine. Beaucoup d'entre elles ont été formées à des métiers traditionnellement exercés par des hommes. Le transport de gravats, le dynamitage de roches ou la conduite de véhicules lourds.
Vraiment, j'ai eu peur. Premier jour même de rentrer dans le Dambé, j'ai eu peur. Bon, après, au fur et à mesure, avec le temps, on a vu que bon, c'est un engin comme les autres. Et bon.
Konaté a commencé à travailler à Endeavour Mining alors que l'usine de traitement était encore en construction. Elle a d'abord été employée pour ramasser les sacs en plastique et les débris sur le sol de la mine. Grâce à des formations régulières à différents postes, Konaté a finalement été promue au poste de chauffeur de camion à Ben.
Bien avant ça, avec le travail de la mine, même étant à Beauvau dans ma maison, je n'avais que même chaise comme ça, je n'avais pas, je m'asseyais dans mon tabouret. Mais aujourd'hui, me voilà assis dans le fauteuil, chaque fois je regarde la télé, bien à l'aise, je mange ce que je veux. Vraiment, le travail de la mine a changé beaucoup.
Quand vous allez finir le ravitaillement, là, tu me fais signe.
Sonia Nkema, 36 ans, mère de deux enfants, conduisait elle aussi un camion à Ben lorsqu'elle a commencé à travailler à la mine. Aujourd'hui, 4 ans seulement, après avoir rejoint la mine de Houndé, elle est responsable d'une soixantaine de travailleurs coordonnant les différentes opérations de la mine pour plus de 100 personnes. Endeavour Mining affirme que 20 à 30% de sa main-d'œuvre totale sera composée de femmes dans un avenir proche.
Pour la première fois, des femmes ont pris part au combat du tournoi annuel de lutte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé au cours de la première semaine du mois de mars. Jean-Roger Bion nous en parle.
Pour la première fois, des lutteuses participent au tournoi africain de lutte de la CEDEAO, dont la 13e édition s'est déroulée au stade national MKO à Biola, à Abuja, la capitale du Nigeria. Elle se félicite des progrès réalisés. Céline Bakayoko, lutteuse ivoirienne de 33 ans, devenue professionnelle en 2019.
Je suis vraiment contente parce que depuis de la première édition à la 12e édition, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes et ça nous fait plaisir parce que les femmes savent lutter. Les femmes savent lutter, il fallait juste qu'on nous donne notre chance. Eux-mêmes, ils ont vu que le combat des dames et le combat des hommes, il n'y avait pratiquement pas de différence parce que les femmes luttaient autant bien que les hommes.
Le tournoi a rassemblé des lutteurs et lutteuses de 11 États membres de la CEDEAO et le tournoi fait partie de la célébration du 50e anniversaire de l'organisation. Jocelyne Assama Asante, lutteuse ghanéenne, estime que les femmes ont tiré leur épingle du jeu.
This tournament has taught me to...
Ce tournoi m'a appris à être patiente, à endurer, parce que la lutte elle-même exige d'être capable d'endurer pour pouvoir gagner.
La lutte traditionnelle en Afrique de l'Ouest, pratiquée principalement par des hommes au physique parfois proche de celui des sumo, est un sport populaire à travers la région, des stades vibrants du Sénégal aux villages désertiques du Niger. Bien que le tournoi constitue une avancée pour les femmes de la région, pratiquant ce sport dominé par les hommes, d'autres progrès sont à faire selon les lutteuses. Yvonne Ami, lutteuse, vient de Côte d'Ivoire.
Bon, c'est déjà un grand pas et puis c'est un honneur pour nous les femmes d'abord d'avoir participé à ce tournoi parce que c'est la première fois et ça met l'ouverture sur l'égalité des sexes, hommes et femmes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir.
Le Niger, champion de l'année dernière, est cette année le grand absent des combats, tout comme le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays ont quitté la CEDEAO en début d'année, après plusieurs années de relations tendues avec l'organisation régionale. I'm running, just gonna keep...
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête! Like a grown up, gonna own up. Never gonna see these arms thrown up.